Ici le centre de conférence d'Apple Square à Salt Lake City. Vous avez assisté à la 176e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Binkley, président de l'Église, dirigera cette session.
We welcome you this morning.
Nous souhaitons la bienvenue ce matin à la quatrième session de la 176e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ, des Saints des Derniers Jours. Nous saluons tous ceux d'entre vous qui suivent cette réunion à la radio, à la télévision, par Internet ou transmission satellite. Nous remercions les propriétaires et les exploitants des réseaux de diffusion qui transmettent cette conférence. Nous saluons ce matin les personnalités du gouvernement, du monde de l'enseignement et des édiles ici présents. La musique de cette session est interprétée par le chœur du Tabernacle sous la direction de Craig Jessop et de Mac Wilberg avec John Longhurst à l'orgue. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Quel fondement ferme ?» et nous interprétera maintenant la prière. Ensuite, Carl B. Pratt, des 70, fera la prière d'ouverture. Après la prière d'ouverture, le chœur chantera « Mon Père Céleste m'aime ».
Thank you. Our dearest Father in heaven,
cher Père Céleste, nous nous adressons à toi au début de cette session, le cœur reconnaissant des nombreuses bénédictions que tu nous accordes. Nous te remercions de ce magnifique cœur qui nous a donné du courage et nous a inspiré à être meilleurs. Nous te remercions, Père, de la situation favorable dans laquelle nous nous retrouvons dans cette magnifique salle et dans les magnifiques églises de par le monde. Nous te remercions de ton Fils et son expiation infinie, reconnaissant, Père, du prophète et des apôtres qui nous dirigent, et nous te prions en particulier pour eux et pour leurs familles. Veuille bénir le président Hinckley, ses conseillers, donne-leur la force, la santé dont ils ont besoin pour continuer dans cette grande œuvre qui est la tienne. Nous sommes reconnaissants, Père, des nombreux dirigeants, hommes et femmes dans le monde entier, qui donnent tant de leur temps dans un effort pour édifier ton royaume. Et Père, nous te prions de nous donner la paix dans ce monde troublé. Nous te prions aussi de bénir les hommes et les femmes des forces armées de tous les pays, dans toutes les régions où ils servent. Veuille les protéger, en particulier les saints des derniers jours, qui donnent tant. Nous te prions, Père, aussi pour nos missionnaires. Veuille veiller sur eux, les protéger. Nous te prions pour les personnes qui les écoutent. Que ton esprit ouvre leur esprit et touche leur cœur, qu'ils aient la vision de ce qu'est ton œuvre, et qu'ils aient la vision de ton Fils et aillent à lui. Nous te prions de nous accorder ton esprit ce matin, d'accorder à ceux qui vont nous adresser la parole, ceux d'entre nous qui vont les écouter. Aide-nous à écouter aussi, le cœur ouvert et l'esprit ouvert. Fait que soyons humbles et que nous comprenions, acceptions de nous améliorer. Nous te remercions de nouveau des nombreuses bénédictions que tu nous donnes au nom sacré de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Thomas Monson, premier conseiller dans la première présidence. Après lui, nous entendrons Tom Perry du Collège des Douze Apôtres. Il sera suivi de Richard Edgley, de l'Épiscopat président. Margaret Liefert, première conseillère de la présidence générale de la primaire, nous parlera ensuite. Après son discours, le chœur et l'assemblée chanteront « Vivons ce bonheur ». Nous aurons ensuite le plaisir d'entendre Anthony Perkins, des 70. Il sera suivi de Russell Nelson, du Collège des Douze Apôtres. Le chœur chantera ensuite « How lovely is thy dwelling place », Frère Monson.
My dear brothers and sisters,
mes chers frères et sœurs, vous qui êtes assemblés devant moi ou dans le monde entier, je sollicite votre foi et vos prières pendant que je m'accute de la tâche et de la bénédiction qui m'a été confiée de m'adresser à vous. En 1959, peu après être devenu président de la mission canadienne basée à Toronto, en Ontario, j'ai rencontré N. Eldon Tanner, personnalité canadienne, qui allait être appelée quelques mois plus tard comme assistant du Collège des Douze Apôtres, puis membre du Collège des Douze, et enfin conseiller de 4 présidents de l'Église. À l'époque où je l'ai rencontré, Frère Tanner était président de la grande entreprise TransCanada Pipelines et président du Pieux de Calgary. On le connaissait sous le nom de Monsieur Intégrité. Lors de cette première réunion, nous avons parlé, entre autres, des hivers canadiens rigoureux, où les tempêtes font rage, où les températures peuvent rester bien en dessous de 0 degré centigrade pendant des semaines d'affilée, et où le vent glacial fait descendre la température encore plus bas. J'ai demandé au président Tanner pourquoi les routes et les autoroutes de l'Ouest du Canada restaient quasiment intactes pendant ces hivers. Pourquoi elles ne laissaient paraître aucun signe, fissure ou cassure, alors que dans de nombreux endroits où les hivers étaient moins froids et moins rigoureux, il se formait sur la surface de la route des fissures, des cassures et des nids de poules. Il m'a dit, la réponse se trouve dans la profondeur de la partie inférieure des matériaux de revêtement. Pour qu'ils restent forts et ne cassent pas, il faut que les couches inférieures soient très profondes. Quand la fondation n'est pas assez profonde, la surface ne résiste pas aux températures extrêmes. Au cours des années, j'ai souvent pensé à cette conversation et à l'explication que le président Tanner avait donnée, car j'y vois une grande application à notre vie. Pour parler simplement, si nous n'avons pas de fondation de foi profonde, ni de témoignage solide de la vérité, nous pouvons avoir du mal à résister aux violentes tempêtes et au vent glacial de l'adversité que rencontre inévitablement chacun d'entre nous. La condition mortelle est une période de mise à l'épreuve, un temps pour nous montrer dignes de retourner dans la présence de notre Père céleste. Pour être mis à l'épreuve, nous devons rencontrer des obstacles et des difficultés. Ils peuvent nous briser, et la surface de notre âme peut se fissurer et se désagréger. Cela, si notre fondation de foi et notre témoignage de la vérité ne sont pas profondément ancrés en nous. Nous ne pouvons nous reposer sur la foi et sur le témoignage d'autres personnes que pour un temps. Finalement, nous devons avoir foi, avoir notre propre fondation solide et profonde, sinon nous ne pourrons pas résister aux tempêtes de la vie, qui ne manqueront pas de venir. Ces tempêtes prennent différentes formes. Nous pouvons avoir l'immense chagrin d'avoir un enfant rebelle. qui choisit de se détourner du sentier menant à la vérité éternelle pour marcher sur les pentes glissantes de l'erreur et de la désillusion. La maladie peut nous frapper, nous ou un être cher, et entraîner la souffrance et parfois la mort. Un accident peut laisser de terribles traces ou mettre fin à la vie. La mort atteint les personnes âgées aux pieds chancelants. Elle emmène les personnes qui en sont à peine à la moitié du voyage de la vie et étouffe souvent le rire de petits-enfants. Parfois, on a l'impression qu'il n'y a pas de lumière au bout du tunnel, ni d'aurore pour chasser les ténèbres de la nuit. Nous nous sentons entourés par la souffrance de cœur brisé, la déception de rêves anéantis et le désespoir d'espérances disparues. Nous aussi, nous lançons la supplication biblique. N'y a-t-il point de baume en Galade? Nous sommes enclins à considérer nos propres malheurs à travers le prisme déformant du pessimisme. Nous nous sentons abandonnés, tristes, seuls. Comment pouvons-nous avoir une fondation assez solide pour résister à ces vicissitudes de la vie? Comment pouvons-nous garder la foi et le témoignage qui seront nécessaires pour éprouver la joie promise aux fidèles? Cela nécessite un effort constant et suivi. La plupart d'entre nous ont déjà eu l'expérience de recevoir une inspiration si forte qu'elle fait monter les larmes aux yeux et donne la détermination de rester toujours fidèle. J'ai déjà entendu dire, si je pouvais garder constamment ces sentiments, je n'aurais jamais de mal à faire ce que je dois faire. Cependant, ces sentiments peuvent être éphémères. L'inspiration que nous ressentons pendant ces sessions de conférence peut s'atténuer et disparaître quand arrive lundi et que nous devons de nouveau faire face au train-train de la vie, au travail, à l'école, à la maison et en famille. Ces occupations peuvent facilement détourner notre esprit du saint au profane, de ce qui édifie à ce qui, si nous le permettons, ronge notre témoignage, notre solide fondation spirituelle. Bien entendu, nous ne vivons pas dans un monde uniquement spirituel, mais nous pouvons fortifier notre fondation de foi et notre témoignage de la vérité afin de ne pas faiblir, de ne pas défaillir. Comment pourriez-vous demander, obtenir et garder le plus facilement, efficacement possible, la fondation dont nous avons besoin pour survivre spirituellement dans le monde dans lequel nous vivons? Je vais vous indiquer trois principes directeurs qui pourront nous aider dans notre recherche. Premièrement, fortifiez votre fondation par la prière. L'humble prière est l'ardent désir, muet ou exprimé. Lorsque nous prions, communiquons réellement avec notre Père céleste. Il est facile de laisser nos prières devenir répétitives en exprimant des paroles sans penser ou presque à ce qu'elles veulent vraiment dire. Lorsque nous nous souvenons que chacun d'entre nous est littéralement fils ou fille d'Esprit de Dieu, nous n'avons pas de mal à nous adresser à lui par la prière. Il nous connaît. Il nous aime. Il veut ce qu'il y a de meilleur pour nous. Prions avec sincérité et intention, rendant grâce et demandant ce dont nous pensons avoir besoin. Soyons à l'écoute de ses réponses pour pouvoir les reconnaître quand nous les recevons. Si nous le faisons, nous serons fortifiés et bénis. Nous le connaîtrons et saurons ce qu'il désire pour notre vie. Si nous le connaissons et que nous faisons confiance à sa volonté, notre fondation de foi sera renforcée. Si quelqu'un d'entre vous a été lent à écouter le conseil de prier toujours, il n'y a pas de meilleur moment pour commencer que maintenant. William Cowper a déclaré, Satan tremble lorsqu'il voit le plus faible des saints à genoux. Ne négligeons pas nos prières en famille. Elle constitue une prévention efficace contre le péché et donc l'une des sources les plus salutaires de joie et de bonheur. Le vieil adage suivant est toujours vrai. Une famille qui prie ensemble reste ensemble. En étant un exemple pour nos enfants en ce qui concerne la prière, nous les aidons aussi à poser leur propre fondation profonde de foi et à acquérir leur propre témoignage, fondation qui leur servira pendant toute leur vie. Voici le deuxième principe que je voudrais aborder. Étudions les Écritures et méditons à leur sujet, jour et nuit, comme l'a recommandé le Seigneur dans le livre de Josué. En 2005, des centaines de milliers de saints des derniers jours ont accepté l'invitation de Gordon B. Hinckley de lire le livre de Mormon avant la fin de l'année. Je crois que décembre 2005 détient le record absolu de nombre d'heures consacrées à répondre à l'invitation à temps. Nous avons été bénis en le faisant. Notre témoignage s'est fortifié. Notre connaissance a augmenté. Je vous encourage tous à continuer de lire et d'étudier les Écritures afin que nous les comprenions et que nous appliquions à notre vie les leçons que nous en tirons. Je vais paraphraser le prophète James Finney Baxter. Qui ne fait qu'apprendre sans jamais parvenir à la connaissance est semblable à celui qui travaille la terre sans jamais y semer. Il ne fait aucun doute que le temps que nous passons chaque jour à étudier les Écritures fortifie notre fondation et notre témoignage de la vérité. Souvenez-vous de la joie qu'Alma a éprouvée alors qu'il se rendait au pays de Gédéon, au pays de Manti, au sud, lorsqu'il a rencontré les fils de Mosia. Alma ne les avait pas vus depuis un certain temps et il était ravi de découvrir qu'ils étaient toujours ses frères dans le Seigneur et qu'ils étaient devenus forts dans la connaissance de la vérité, car ils étaient des hommes d'une saine intelligence et ils avaient sondé diligemment les Écritures afin de connaître la parole de Dieu. Puissions-nous aussi connaître la parole de Dieu et mener notre vie en conséquence. Le troisième principe dont je voulais parler pour bâtir une fondation solide de foi et avoir un témoignage profond se rapporte au service. Un matin, alors que je me rendais à mon bureau en voiture, je suis passé devant une blanchisserie qui avait un écriteau dans la vitrine. Il y était écrit « C'est le service qui compte ». Je n'arrivais tout simplement pas à faire sortir cette phrase de ma tête. Soudain, je me suis rendu compte pourquoi. En réalité, c'est vraiment le service qui compte, le service du Seigneur. Dans le livre de Mormon, nous faisons la connaissance du noble roi Benjamin. Avec la véritable humilité d'un dirigeant inspiré, il exprime son désir de servir son peuple et de le conduire sur les sentiers de la justice. Il déclare ensuite, « Parce que je vous ai écrit que j'avais passé ma vie à votre service, je ne désire pas me vanter, car j'étais simplement au service de Dieu. » Et voici, je vous dis ces choses afin que vous appreniez la sagesse, afin que vous appreniez que lorsque vous êtes au service de vos semblables, vous êtes simplement au service de votre Dieu. C'est le service qui compte, le service auquel nous avons tous été appelés, le service du Seigneur Jésus-Christ. Sur le chemin de votre vie, vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas les seuls à voyager. Il y a d'autres personnes qui ont besoin de votre aide. Il y a des pieds à affermir, des mains à saisir, des esprits à encourager, des cœurs à inspirer et des âmes à sauver. Il y a 13 ans, j'ai eu la chance de donner une bénédiction à une belle jeune fille de 12 ans, Jamie Palmer. Elle venait de découvrir qu'elle avait le cancer. Elle était apeurée et désemparée. Elle a ensuite eu une opération chirurgicale et une douloureuse chimiothérapie. Aujourd'hui, elle est débarrassée du cancer. C'est une belle et intelligente jeune femme de 26 ans qui accomplit beaucoup de choses. Il y a un certain temps, j'ai appris que dans ces heures les plus sombres, quand l'avenir semblait incertain et maussade, elle a appris qu'elle devait avoir plusieurs opérations à la jambe où était situé le cancer. Elle a pensé qu'il était hors de question de faire la randonnée depuis longtemps prévue avec sa classe des jeunes filles sur un chemin rocailleux montant jusqu'à Timpanogos Cave dans les monts Wasatch, à une soixantaine de kilomètres au sud de Salt Lake City. Jamie a dit à ses amis qu'elle devrait faire la randonnée sans elle. Je suis sûr que sa voix tremblait et qu'elle était déçue. Les autres jeunes filles lui ont alors répondu énergiquement, « Ah non, Jamie, tu viens avec nous. Mais je ne peux pas marcher, » a-t-elle répliqué avec angoisse. « Alors on te portera jusqu'au sommet. » Et c'est ce qu'elles ont fait. Aujourd'hui, cette randonnée n'est plus qu'un souvenir. Mais en réalité, elle est bien plus que cela. Le poète écossais James Barry a déclaré, « Dieu nous a donné des souvenirs afin que nous puissions avoir des roses de juin au décembre de notre vie. Aucune de ces chères jeunes filles n'oubliera jamais ce jour mémorable où un Père céleste aimant a regardé du haut des cieux et a souri d'approbation et de satisfaction. Lorsqu'il nous enrôle à sa cause, il nous invite à nous approcher de lui et nous ressentons son esprit dans notre vie. Tandis que nous posons une fondation ferme à notre vie, souvenons-nous tous de sa belle promesse. Quand tu passeras par la crainte et les maux, tu ne seras pas vaincu par leur fardeau, car pour te bénir, près de toi je serai, et dans ta détresse, je te soutiendrai.
Omnipotent hand, may each of us qualify.
Je prie humblement pour que nous soyons tous dignes de cette bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
En assistant à une réunion de Sensen pendant les mois d'été, j'ai eu la chance d'entendre les messages de trois étudiantes qui étaient rentrées chez elles de l'université pour l'été. Le discours de l'une d'elles m'a particulièrement intéressé. Elle avait travaillé pendant les vacances d'été dans un restaurant fréquenté par des routiers. L'un d'eux, qui effectuait un trajet régulier, s'arrêtait le même jour de chaque semaine au restaurant pour manger. Cette fréquentation régulière donnait l'occasion d'échanger quelques mots. Il a demandé à la jeune fille où elle habitait. Elle lui a dit qu'elle était chez elle pour l'été, pour gagner de l'argent pour reprendre ses études à l'automne. Sa question suivante a été, « Où faites-vous vos études ?» Elle a répondu, « BYU, Idaho ». Il a voulu en savoir plus sur l'université, ce qui a débouché sur une conversation sur l'Évangile. Elle a commencé par lui parler de la parole de sagesse. Cela a marché. Elle l'a convaincu de cesser de fumer. Son horaire a alors changé et n'a plus eu l'occasion de le servir. Elle lui a donc écrit un mot et y a joint une brochure missionnaire sur le plan du salut. Au bout de quelques jours, elle a reçu un mot du routier. Il disait simplement, « Vous avez changé ma vie. » Grâce à cette jeune fille, il avait trouvé une information qui l'avait fait penser au changement qu'il devait apporter à sa vie. Je ne sais pas comment cette petite rencontre entre une serveuse et un routier s'est terminée, mais il est clair que la vie de l'homme en a été affectée.
Elle a alors poursuivi en expliquant à quel point il est facile de parler aux gens des beautés de l'Évangile. Les occasions sont là tous les jours dans nos activités ordinaires d'ouvrir la bouche pour informer les gens des vérités de l'Évangile qui seront une bénédiction pour eux dès maintenant et dans les éternités à venir. Beaucoup se demandent, d'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous ici? Où allons-nous? Notre Père éternel ne nous a pas envoyés sur la terre pour y faire un voyage sans but et sans signification. Il nous a donné un plan à suivre. Il est l'auteur de ce plan. Il est conçu pour la progression de l'homme et pour son salut et son exaltation plus tard. Je cite le guide missionnaire « Prêcher mon évangile ». Dieu est le Père de notre esprit. Nous sommes littéralement ses enfants et il nous aime. Avant de naître sur cette terre, nous avons vécu comme enfants spirituels de notre Père céleste. Cependant, nous n'étions pas comme lui et nous n'aurions jamais pu devenir comme lui ni jouir de toutes les bénédictions dont il jouit sans connaître l'expérience de la vie sur cette terre avec un corps physique. Tout ce que Dieu veut faire, son œuvre et sa gloire, c'est rendre chacun de nous capable de jouir de toutes ses bénédictions. Il a élaboré un plan parfait pour réaliser son but. Nous avons compris et accepté ce plan avant de venir sur la terre. Pourtant, beaucoup de gens dans le monde d'aujourd'hui continuent à se débattre pour trouver la réponse aux questions les plus fondamentales de la vie. Les cris « par ici » et « par là » ne font que devenir plus forts et bien des fois causent une plus grande confusion. La technologie a multiplié la confusion en répandant ses messages par les ondes hertziennes et à travers les énormes quantités de câbles qui couvrent maintenant la Terre. Il y a tant de moyens de diffuser de plus en plus de messages différents que cela ne doit pas nous étonner que les gens soient dans la confusion. Il y a des siècles, Paul a prédit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Nous n'avons aucune raison d'être dans la confusion. Les réponses aux questions éternelles concernant le but de la vie ont de nouveau été données à l'humanité pour nous guider. Nous avons entendu parler pour la première fois du plan du salut avant notre naissance, dans ce que les Écritures appellent notre premier état. Nous n'avons qu'une vague idée de ce qui s'est passé au cours de ce premier état, mais nous savons que nous y avons vécu en tant qu'esprit, enfant de notre Père Céleste, et que nous avons effectué certains progrès pour nous préparer à avoir la possibilité de loger notre esprit éternel dans un corps terrestre. Nous savons également que notre Père a tenu un grand conseil pour expliquer le but de la vie terrestre. Nous avons eu la possibilité d'accepter ou de rejeter le plan du salut. Il ne nous a pas été imposé. L'essence du plan était que l'homme aurait l'occasion de travailler lui-même à son salut sur terre avec l'aide de Dieu. Un dirigeant a été choisi pour nous enseigner comment suivre le plan et nous racheter du péché et de la mort. Comme le Seigneur l'a expliqué à Moïse, « Voici mon Fils bien-aimé, qui était mon bien-aimé et mon élu depuis le commencement, me dit, « Père, que ta volonté soit faite, et que la gloire t'appartienne à jamais. » Jésus-Christ, notre frère aîné, a été le principal défenseur du plan conçu par le Père, et nous avons accepté le plan et ses conditions. Par ce choix, nous avons acquis le droit de venir sur la terre et d'entrer dans notre second état. Dieu a créé Adam et Ève à son image, avec un corps de chair et d'os, et les a mis dans le jardin d'Éden. Le choix leur a été donné, soit de rester dans le jardin, soit de prendre du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et d'avoir l'occasion de faire l'expérience de la condition mortelle. Ils ont relevé le défi, mangeaient du fruit et sont ainsi devenus mortels et sujets à la mort physique. Du fait de leur choix, ils allaient connaître toutes les épreuves et toutes les difficultés de la condition mortelle. Il y a deux buts à la vie dans la condition mortelle. Le premier est de nous faire vivre des expériences que nous ne pourrions faire d'aucune autre manière. Le second est d'obtenir un tabernacle de chair et d'os. Ces deux buts sont essentiels à l'existence de l'homme. Nous sommes actuellement mis à l'épreuve pour voir si nous ferons tout ce que le Seigneur nous a commandé de faire. Ces commandements sont les principes et les ordonnances de l'Évangile, et ils constituent l'Évangile de Jésus-Christ. Chaque principe et ordonnance a un impact sur le but global de notre épreuve, qui est de nous préparer à retourner à notre Père céleste et à devenir comme lui. Bruce R. McConkie a dit ceci au sujet du chemin étroit et resserré. Ce que je pense que nous devons tous faire est de déterminer où nous en sommes dans chaque domaine de la condition mortelle. Ensuite, sur la base des concepts globaux généraux qui sont clairs et évidents, nous décidons de la façon dont nous allons vivre dans tel ou tel domaine afin de réussir l'état probatoire, afin de réussir l'épreuve de la condition mortelle. Si nous faisons les bons choix, nous irons recevoir la récompense éternelle. Sinon, nous recevrons une place inférieure et moindre dans les royaumes qui sont préparés. Quiconque dans l'Église se trouve sur le chemin étroit et resserré, qui se donne du mal, fait des efforts et désire faire ce qui est bien, aussi loin qu'il soit de la perfection dans cette vie, s'il quitte cette vie tandis qu'il est sur le chemin étroit et resserré, il va aller chercher la récompense éternelle dans le royaume de son Père. Tout cela est rendu possible par Jésus-Christ. Il est la pièce maîtresse du plan éternel du Père, le Sauveur qui a été donné comme rançon pour l'humanité. Dieu a envoyé son Fils bien-aimé pour vaincre les effets de la chute d'Adam et Ève. Il est venu sur la terre pour être notre Sauveur et notre Rédempteur. Il a surmonté l'obstacle de la mort physique pour nous en donnant sa propre vie. Quand il est mort sur la croix, son esprit s'est séparé de son corps. Le troisième jour, son esprit et son corps ont été réunis éternellement pour ne plus jamais être séparés. La vie sur terre a une durée limitée. Il vient un moment pour nous tous où l'esprit et le corps sont séparés par la mort. Mais grâce à la résurrection de Jésus-Christ, nous ressusciterons tous, que nous ayons fait le bien ou le mal dans cette vie. L'immortalité est le don de notre Père céleste à chacun de ses enfants. La mort doit être considérée comme la porte ouverte sur une vie nouvelle et meilleure. Par la résurrection glorieuse, le corps et l'esprit seront réunis. Nous aurons un corps parfait et immortel de chair et d'os qui ne sera jamais soumis à la douleur ou à la mort. Mais la gloire que nous atteindrons dans la vie suivante dépendra de ce que nous faisons dans cette vie. Ce n'est que par le don de l'expiation et par notre obéissance à l'Évangile que nous pourrons retourner vivre avec Dieu. Après la résurrection du Sauveur, ces deux apôtres sont allés prêcher ce message glorieux aux nations de la terre. Ils ont énormément voyagé pour enseigner la mission de notre Sauveur. Un grand mouvement de christianisme a commencé à se répandre dans beaucoup de pays. Mais l'Église a graduellement dérivé vers une apostasie générale, dans laquelle la succession de la prêtrise a été interrompue. L'autorité d'officier dans les ordonnances spirituelles a cessé d'exister sur la terre. Graduellement, des hommes inspirés ont commencé à opérer une réforme. Le président Hinckley l'a décrite comme l'aube d'un jour nouveau, il a dit. Mais dans cette longue période de ténèbres, une lumière a fini par s'allumer. Le siècle de la Renaissance a été accompagné d'un épanouissement des connaissances, des arts et de la science. Un mouvement d'hommes et de femmes audacieux et courageux a vu le jour. Il se tournait vers les cieux, reconnaissant Dieu et son Fils divin. Nous l'appelons la réforme. Puis, après le passage de nombreuses générations sur la terre dont tant ont connu la guerre, la haine et le mal, le grand et nouveau jour du rétablissement est arrivé. L'évangile glorieux a été introduit par l'apparition du Père et du Fils au jeune Joseph. L'aube de la dispensation de la plénitude des temps s'est levée sur le monde. Tout ce que les dispensations précédentes avaient eu de bon, de beau et de divin, a été rétabli à cette époque des plus remarquables. Après l'événement glorieux de la première vision, les annales sacrées du livre de Mormon ont été remises à Joseph Smith, le prophète. Cela a donné un nouveau témoin de notre Seigneur et Sauveur et de sa mission au peuple du monde. Ainsi, nous voyons dans le plan éternel de notre Père que son amour est sans limite. Chacun de ses enfants est inclus. Tous les hommes ont la même origine et une possibilité égale d'accomplir un destin éternel. Amulek, prophète du livre de Mormon, témoignant que les paroles du Christ nous apporteront le salut, a dit: et maintenant, mes frères, je voudrais qu'après avoir reçu tant de témoignages, voyant que les saintes Écritures témoignent de ces choses, vous vous avanciez et produisiez du fruit digne du repentir. Oui, je voudrais que vous vous avanciez et ne vous endurcissiez plus le cœur, car voici, c'est maintenant le moment et le jour de votre salut. Et c'est pourquoi, si vous vous repentez et ne vous endurcissez pas le cœur, c'est immédiatement que le grand plan de rédemption se réalisera pour vous. Car voici, cette vie est le moment où les hommes doivent se préparer à rencontrer Dieu. Oui, voici, le jour de cette vie est le jour où les hommes doivent accomplir leurs œuvres. Ne soyons plus flottants et emportés à tous les vents de doctrine profane des hommes. Nous déclarons au monde que les cieux sont ouverts et que la vérité du plan éternel de Dieu a de nouveau été communiquée à l'humanité. Nous vivons dans la dispensation de la plénitude des temps. Nous vivons à une époque où nous avons le témoignage par les Écritures, du grand plan que le Seigneur a donné à ses enfants depuis le commencement des temps jusqu'à notre dispensation actuelle, la dernière. Les preuves sont solides. Nous ne sommes pas laissés seuls à errer dans la condition mortelle sans connaître le grand plan que le Seigneur a conçu pour ses enfants. Il s'est engagé, par alliance solennelle, à nous donner les bénédictions du ciel selon notre obéissance à sa loi. Ah, souvenez-vous que ces choses sont vraies, parce que le Seigneur Dieu nous a révélé ces vérités éternelles. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
In front of this vast worldwide audience,
devant ce vaste auditoire et avec quelques appréhensions, je fais une confession personnelle en introduction au sujet qui me préoccupe depuis quelque temps. En 1955, après ma première année d'université, j'ai passé l'été à travailler dans l'hôtel nouvellement construit de Jackson Lake à Moran, Wyoming. J'avais comme moyen de locomotion une vieille auto Hudson de 1941, donc âgée de 14 ans, qui aurait dû être mise à la ferraille au moins 10 ans plus tôt. Entre autres particularités, le plancher était tellement rouillé que sans l'aide d'une plaque de contreplaqué, mes pieds auraient littéralement frotté sur l'autoroute. La bonne chose étant que, contrairement aux autos de 14 ans de l'époque, elles ne consommaient pas d'huile, de l'eau. Beaucoup d'eau dans le radiateur, mais pas d'huile. Je ne savais jamais où passer l'eau, ni comment l'huile devenait de plus en plus fluide et de plus en plus claire. En vue du voyage de quelques 300 km que je devais effectuer pour rentrer chez moi à la fin de l'été, j'ai emmené la voiture chez l'unique garagiste de Moran. Après un bref examen, il m'a expliqué que le bloc moteur était fissuré et que l'eau passait dans l'huile. Cela expliquait le mystère de l'eau et de l'huile. Je me suis demandé si je ne pourrais pas faire couler l'eau dans le réservoir d'essence pour moins en consommer. À présent, la confession. Quand je suis arrivé par miracle à la maison, mon père est sorti et m'a accueilli joyeusement. Après les embrassades et quelques mots de bienvenue, il a jeté un coup d'œil sur le siège arrière et y a vu trois serviettes de l'hôtel de Jackson Lake, de celles qui ne sont pas mises en vente. Après un regard déçu, il m'a dit « J'espérais mieux de ta part ». Je n'avais pas pensé que ce que j'avais fait était si mal. Pour moi, ces serviettes ne représentaient qu'un symbole du travail accompli pendant tout un été dans un hôtel luxueux, une sorte de rite de passage. Néanmoins, j'ai ressenti que parce que je les avais prises, j'avais perdu la confiance de mon père et cela me bouleversait. Le week-end suivant, j'ai remis en place le contreplaqué dans ma voiture, rempli le radiateur d'eau et entrepris le voyage jusqu'à Jackson aller-retour, soit près de 600 km, pour apporter les trois serviettes. Mon père ne m'a jamais demandé pourquoi je retournais à Jackson et je ne lui ai jamais dit. Il n'était pas nécessaire d'en parler. Cette leçon d'honnêteté onéreuse et douloureuse est restée gravée en moi toute ma vie. Malheureusement, une des valeurs les plus manquantes dans notre société sont l'honnêteté et l'intégrité. Au cours des dernières années, de plus en plus d'hommes d'affaires ont été mis au premier plan à cause de leur malhonnêteté et d'autres formes de corruption. Des dizaines de milliers d'employés fidèles de longue date à leur entreprise ont perdu leur gagne-pain et leur retraite. Certains ont même perdu leur maison, ont dû changer les enfants d'école et revoir leurs projets. Nous lisons et entendons que la triche à l'école est très répandue, qu'on se soucie plus d'obtenir un diplôme que d'apprendre et de se préparer. Nous entendons parler d'étudiants qui ont triché pour arriver en faculté de médecine et accomplissent maintenant des opérations complexes sur leurs patients. Des personnes âgées et d'autres sont victimes d'escrocs et perdent leur maison et les économies de toute une vie. La malhonnêteté et le manque d'intégrité ont toujours pour point de départ la cupidité, l'arrogance et le manque de respect. Nous lisons dans les Proverbes, les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. Mormon, en parlant des Lamanites convertis qui étaient appelés le peuple d'Anti-Néphiléi, a écrit, et ils étaient parmi le peuple de Néphi, et également comptés parmi le peuple qui était de l'Église de Dieu. Et ils se distinguaient aussi par leur zèle envers Dieu et aussi envers les hommes, car ils étaient parfaitement honnêtes et droits en tout. Et ils furent fermes dans la foi au Christ jusqu'à la fin. Il y a une trentaine d'années, alors que je travaillais dans le monde de l'entreprise, quelques hommes d'affaires et moi passions à l'aéroport O'Hare à Chicago. L'un d'eux venait juste de vendre sa société pour des dizaines de millions de dollars. En d'autres termes, il n'était pas pauvre. Comme nous passions devant un distributeur de journaux, cet homme a mis 25 cents dans la machine, a ouvert la porte du compartiment des journaux et s'est mis à nous les distribuer sans payer. Lorsqu'il m'a tendu un journal, j'ai mis 25 cents dans la machine et en essayant de ne pas l'offenser, j'ai dit en plaisantant, « Jim, cela ne me gêne pas de payer 25 cents pour garder mon intégrité. Pour un dollar, j'y réfléchirai peut-être. Mais non, pas pour 25 cents. » Voyez-vous, je me souvenais fort bien de l'expérience de trois serviettes et d'une vieille Hudson de 1941. Quelques minutes plus tard, nous sommes repassés devant ce distributeur de journaux. J'ai remarqué que Jim s'était écarté du groupe et était occupé à mettre des pièces dans la machine. Je vous relate cet incident, non pas pour me poser en exemple d'honnêteté, mais seulement pour souligner les leçons de trois serviettes et d'un journal à 25 cents. L'honnêteté n'existera pas dans le monde des affaires, à l'école, au foyer, ni où que ce soit, tant qu'elle n'aura pas pénétré le cœur. Les leçons importantes et durables sont souvent enseignées par des exemples simples, comme celui de trois serviettes ou d'un journal à 25 cents. Je me demande comment serait le monde si de simples leçons d'honnêteté étaient enseignées au foyer dès le plus jeune âge. Des leçons simples comme « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » ou « Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils vous fassent ». Je me demande ce qu'il serait advenu de milliers d'employés au chômage et qui ont perdu leur retraite, si certains hommes d'affaires, haut placés, avaient vécu dans leur jeunesse cette expérience de trois serviettes et d'un journal à 25 cents. L'honnêteté est la base d'une vraie vie chrétienne. Pour les saints des derniers jours, l'honnêteté est une condition importante pour entrer dans le Saint-Temple du Seigneur. L'honnêteté est une partie essentielle des alliances que nous contractons au Temple. Chaque dimanche, lorsque nous prenons les emblèmes sacrés de la chair et du sang du Sauveur, nous renouvelons nos alliances sacrées et fondamentales qui incluent l'honnêteté. Nous, saints des derniers jours, avons l'obligation sacrée non seulement d'enseigner ce principe d'honnêteté, mais aussi de le vivre. Peut-être par des exemples aussi simples que ceux de trois serviettes ou d'un journal à 25 cents. L'honnêteté devrait être parmi les valeurs fondamentales qui gouvernent notre vie de tous les jours. Lorsque nous sommes fidèles au principe sacré d'honnêteté et d'intégrité, nous sommes en accord avec notre foi et avec nous-mêmes. Je prie que nous, saints des derniers jours, soyons connus comme étant parmi les gens les plus honnêtes au monde. Et l'on dira peut-être de nous, comme on l'a dit du peuple d'Antine et Philéi, que nous sommes parfaitement honnêtes et droits en tout et fermes dans la foi du Christ jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Depuis que j'ai cet appel, je me suis fait de nouveaux amis. Voici Elisa, nous chantons des chants de la primaire ensemble. Voici Lucas et sa sœur Kira. Lucas apprend les articles de foi en espagnol. Caitlin est timide mais curieuse. Quand je suis entrée dans sa classe de la primaire, elle m'a demandé « Quel âge as-tu ?» Je me suis assise à côté de Martha, la primaire, et elle a glissé son bras sous le mien. Avez-vous remarqué la lumière sur le visage de ces enfants? Qui sont les enfants de votre foyer ou de votre voisinage? Regardez-les, pensez à eux. Le Sauveur nous enseigne que pour entrer dans le royaume de Dieu, nous devons devenir comme des enfants, soumis, doux, humbles, patients, et plein d'amour. Mais quelle que soit la foi des enfants qui viennent à nous, ils affrontent les difficultés d'un monde déchu. Que faut-il faire pour aider ces enfants à garder la lumière de la foi dans le regard? Nous savons que rien ne peut remplacer une famille juste dans la vie d'un enfant. Mais dans le monde d'aujourd'hui, les enfants ont besoin d'une mère et d'un père dévoués, mais aussi de chacun de nous pour les protéger, les instruire et les aimer. Frères et sœurs, protéger les enfants signifie leur fournir un cadre qui favorise la présence de l'Esprit dans leur vie et le confirme dans leur cœur. Cela élimine automatiquement toute forme d'indifférence, de négligence, de sévice, de violence ou d'exploitation. Et bien que cette dépravation soit plus grave, nous devons aussi protéger les enfants d'autres conditions préjudiciables, comme trop d'exigences ou trop de complaisance, emploi du temps trop chargé et égocentrisme. Les deux extrêmes affaiblissent la capacité d'un enfant à identifier le Saint-Esprit, de lui faire confiance et d'être guidé par lui. Les enfants sont plus ouverts aux vérités de l'Évangile qu'à n'importe quelle autre période de la vie. Et l'enfance protégée est littéralement le seul moment où l'on puisse lui enseigner à choisir le bien et le fortifier. Il est facile de savoir ce qu'il faut enseigner. Les Écritures et nos prophètes sont clairs sur ce qu'il faut enseigner à nos enfants. Néphi l'a résumé dans le verset suivant. Et nous parlons du Christ, nous nous réjouissons dans le Christ, nous prêchons le Christ, nous prophétisons concernant le Christ et nous écrivons selon nos prophéties afin que nos enfants sachent vers quelle source ils peuvent se tourner pour obtenir la rémission de leurs péchés. Sachant que nous devons enseigner le Christ et son évangile, comment le faire? Commençons par suivre les recommandations de nos prophètes et prenons du temps dans nos foyers pour la prière en famille, l'étude des Écritures et la soirée familiale. L'avons-nous entendu si souvent que cela semble trop simple? Ou sommes-nous si occupés qu'il semble trop compliqué d'ajouter quelque chose? Je témoigne que même lorsque les efforts spirituels de notre famille semblent inefficaces, la seule obéissance ouvre les écluses des cieux et favorise les bénédictions du Seigneur. En fait, l'obéissance personnelle et l'exemple dans toutes les facettes de notre vie sont la meilleure leçon de l'Évangile pour nos enfants. Donc, étudiez, apprenez et appliquez l'Évangile. Nous ne pouvons pas enseigner des principes que nous ne connaissons pas et que nous ne respectons pas. Les enfants discernent, plus vite que nous ne le pensons, qui nous sommes et ce que nous avons dans le cœur. Donc aimez les enfants. Je me souviens que je me sentais aimée quand j'étais enfant. Il m'était donc facile de croire que le Sauveur m'aimait aussi. Les enfants s'épanouissent dans un foyer où les parents comprennent leur devoir sacré d'élever leurs enfants dans l'amour et la droiture. Mais nous pouvons tous aider. Voyez qui sont les enfants autour de vous et apprenez leurs noms. Puis allez vers eux, écoutez, soutenez, guidez, édifiez, servez et témoignez. Votre amour peut amener un enfant à l'amour du Sauveur. Vassili est un enfant qui passe beaucoup de temps dans les rues et ses parents ne l'aident pas dans sa recherche de la vérité. Il a trouvé une petite branche de l'église dans sa ville et il est venu à toutes les activités de l'église. Il a aussi amené ses trois plus jeunes frères à l'église et des camarades sont venus avec lui à la primaire. En fait, à un moment, la plus grande primaire de cette région se composait de ces petits garçons qui ne sont pas membres de l'église. Ils étaient attirés par la vérité, et la lumière de l'Évangile a commencé à briller sur leur visage. Ils étaient accueillis, protégés, instruits et aimés par tous les membres de cette petite branche, notamment les jeunes adultes, les missionnaires, les instructeurs et les dirigeants de la prêtrise. Pensez aux enfants de votre voisinage ou de votre classe de la primaire. Qui sont les enfants de votre branche ou paroisse? Y en a-t-il un, comme Vassili, qui a besoin de vous? Quand je pense à ces garçons et aux enfants comme eux, le récit de la visite du Sauveur sur le continent américain m'apporte beaucoup d'espoir. Vous vous rappelez qu'avant l'apparition du Sauveur, il y eut des tempêtes, des tremblements de terre, des incendies, des tornades, des trois jours d'épaisses ténèbres. J'ai souvent pensé aux enfants qui ont subi tout cela. Et je peux imaginer la peur et le souci des parents. Puis, le Sauveur apparaît et commande à la multitude qu'on lui amène les petits-enfants. Comme ces parents devaient être heureux d'amener leurs enfants au Sauveur. Puis, ils ont vu le Sauveur pleurer et bénir leurs enfants, un par un, prier le Père pour eux et appeler des anges à descendre les servir. Ce récit nous rappelle que c'est le Sauveur qui est le grand protecteur, l'instructeur suprême et la source éternelle d'amour et de guérison. Tandis que les ténèbres de notre époque nous entourent, il nous est aussi commandé d'amener nos enfants au Sauveur. Et comme Frère Ballard nous le rappelle, nous sommes ceux à qui Dieu a demandé d'entourer les enfants d'aujourd'hui d'amour, de leur donner le feu de la foi et la compréhension de leur identité. Frères et sœurs, en tant que mère et dirigeante de la primaire, je sais que ce travail avec les enfants n'est pas facile. Protéger, instruire et aimer les enfants est quelque chose d'exigeant, souvent décourageant, parfois épuisant, et il arrive que les fruits de nos efforts soient très longs à venir. Mais c'est précisément parce qu'il n'est pas facile d'amener les enfants au Sauveur que nous devons nous-mêmes aller à lui. Si nous le recherchons, son esprit nous aidera et nous verrons un miracle. Nous nous apercevrons que notre cœur change et que nous devenons nous aussi soumis, doux, humbles, patients, pleins d'amour. La lumière de l'Évangile brillera aussi notre visage. Nous comprendrons les paroles du Sauveur qui a dit « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. J'aime le Sauveur et je témoigne de son pouvoir rédempteur pour moi, pour vous et pour nos enfants. Au nom de Jésus-Christ, Amen. »
This is the 176th semi-annual General Conference.
Vous assistez à la 176e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ, les saints des derniers jours.
Children in pure faith proclaim,
we believe. Les enfants déclarent avec une foi pure, nous croyons en Dieu, le Père éternel, et en son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Mais parfois, nous, les adultes, nous ne mesurons pas le pouvoir de cette simple déclaration. Satan est l'ennemi de toute justice. Il implante donc dans notre cœur les doutes au sujet de la nature de la divinité et de notre relation avec elle. Jésus-Christ a prophétisé que dans les derniers jours, même les élus seraient séduits. Réfléchissez aux trois exemples suivants qui montrent comment Lucifer pose des traquenards et des pièges pour surprendre les saints de Dieu. Le piège du sentiment injustifié de ne pas être à la hauteur. Une jeune fille fidèle se sent incapable de satisfaire aux attentes des autres. Chez elle et à l'école, on lui fait rarement des compliments et on la critique souvent. Les médias lui disent qu'elle n'est pas assez belle ni assez intelligente. Tous les jours, cette sœur juste se demande si elle est digne de l'amour de notre Père Céleste, du sacrifice expiatoire du Sauveur et de l'inspiration constante de l'Esprit. Le piège du sentiment exagéré d'être imparfait. Un excellent missionnaire se sent incapable de satisfaire aux attentes de Dieu. Dans son esprit, ce frère missionnaire digne imagine un Père Céleste sévère lié par une justice irrévocable, un Sauveur capable de purifier les transgressions des autres, mais pas les siennes, et un Saint-Esprit qui n'est pas disposé à accompagner quelqu'un d'imparfait. Le piège de la culpabilité inutile. Une femme d'un certain âge est une mère dévouée. Elle aime ses amis, Elle sert fidèlement dans l'église et se rend fréquemment au temple. Mais dans son cœur, cette sœur n'arrive pas à se pardonner des péchés qu'elle a commis il y a des années, dont elle s'est repentie et qu'elle a complètement résolu avec des dirigeants de la prêtrise. Elle se demande si sa vie sera jamais acceptable aux yeux du Seigneur et a perdu tout espoir d'avoir la vie éternelle dans la présence de notre Père Céleste. Si vous avez des pensées et des sentiments semblables à ces saints fidèles, je vous invite à devenir comme un petit enfant et à ressentir de nouveau le grand et merveilleux amour manifesté par le Père et le Fils dans la venue du Rédempteur dans le monde. La foi d'un enfant en l'amour parfait de notre Père Céleste et de Jésus-Christ divisera les pièges de Satan que sont le sentiment de ne pas être à la hauteur, le sentiment d'imperfection et la culpabilité. Les Proverbes enseignent, car il est tel que sont les pensées dans son âme. J'aimerais vous suggérer, en plus des prières constantes, de l'étude des Écritures et de l'assistance à l'Église et au Temple, 5 changements dans vos pensées et dans votre cœur qui vous permettront de ressentir plus complètement le tendre amour de Dieu. Premièrement, voyez-vous comme un enfant précieux d'un Père céleste aimant. Nos enfants chantent avec confiance, « Je suis enfant de Dieu et il m'a mis ici ». Les petits-enfants ressentent et savent ce que vous avez peut-être oublié. Vous êtes le fils ou la fille aimée de votre Père céleste. Vous avez été créé à son image. Vous avez une valeur immense, une valeur telle que Jésus-Christ a donné sa vie pour vous. Dieu le Père est miséricordieux, et son amour pour vous est infini malgré vos défauts. Ce n'est que la voix de Satan qui vous entraîne à vous sentir sans valeur. Au contraire, le Saint-Esprit vous amène à ressentir de la tristesse selon Dieu, qui produit le repentir de manière à ce que vous soyez rempli de l'espérance de changement positif. Lorsque vous ne vous sentez d'aucune valeur, souvenez-vous que les âmes ont une grande valeur aux yeux de Dieu. Perdez l'habitude de ressasser des pensées ou des paroles négatives à votre sujet. Il y a une grande différence entre l'humilité et l'humiliation. Cherchez et utilisez les talents qui vous sont propres plutôt que de vous appesantir sur vos faiblesses. Deuxièmement, déchargez-vous de vos fardeaux sur Jésus-Christ. Lorsque vous vous sentez écrasé par les attentes et les difficultés, ne vous battez pas seul. Suivez l'exemple des petits-enfants. Tombez à genoux et priez. Jésus-Christ nous a commandé, « Tournez-vous vers moi dans chacune de vos pensées. Ne doutez pas, ne craignez pas. Le doute, la peur et l'inquiétude montrent que nous avons pris tous les fardeaux et les soucis de la vie sur nos épaules. Quand vous êtes miné par la pensée que vous n'êtes pas à la hauteur, dites-vous avec confiance, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Puis, si vous faites de bon gré tout ce qui est en votre pouvoir, vous pouvez avoir l'assurance que le Seigneur fera le reste et que les choses se passeront bien. Le Sauveur a promis, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En remettant votre sort à l'Éternel, vous ressentirez la paix de l'Esprit. Troisièmement, pardonnez-vous vos péchés et vos imperfections. Votre Père Céleste n'attend pas de vous que vous deveniez complètement parfait dans cette vie. Il savait qu'en apprenant par expérience, ses enfants feraient des fautes dans la condition mortelle. Mais Dieu a tant aimé le monde que son plan du bonheur a prévu un Sauveur miséricordieux. Jésus a dit, « Moi, le Seigneur, je pardonne à qui je veux pardonner, mais de vous, il est requis de pardonner à tous les hommes. Commencez par vous-même et pardonnez aux autres aussi. Si Dieu ne se souvient pas des péchés dont nous nous sommes repentis, pourquoi devrions-nous le faire ? Ne cachez pas votre temps et votre énergie à revivre le passé. Pour vous pardonner à vous-même et pardonner aux autres, vous devez avoir confiance en l'expiation de Jésus-Christ. Le prophète Zénoc a fait cette prière. « Tu es en colère au Seigneur contre ce peuple parce qu'il ne veut pas comprendre la miséricorde que tu lui as accordée à cause de ton Fils. » Notre Père Céleste est attristé lorsque nous limitons le pouvoir du sacrifice expiatoire de son Fils. Si vous exercez votre foi en Jésus-Christ, votre culpabilité peut être balayée. Si vous vous sentez toujours coupable, après un repentir sincère, croyez vos dirigeants de la prêtrise quand ils vous disent que vous êtes digne. Quatrièmement, gardez l'espérance de la vie éternelle. Si vous imaginez que vos précédents péchés, vos défauts et vos mauvaises décisions vous empêchent de recevoir toutes les bénédictions de Dieu, pensez à l'expérience d'Alma l'Ancien. En parlant de ses années de jeunesse, lorsqu'il était un prêtre immoral du méchant roi Noé, Alma a admis, Moi-même, j'ai été pris au piège et j'ai fait beaucoup de choses qui étaient abominables aux yeux du Seigneur, qui m'ont causé un profond repentir. Cependant, le repentir d'Alma a été si complet et l'expiation du Christ si infinie qu'il est devenu prophète et a reçu la promesse qu'il aurait la vie éternelle. Si vous faites de votre mieux pour être obéissant et repentant, vous aussi pouvez recevoir une place dans le royaume céleste par l'expiation et par la grâce de Jésus-Christ. Cinquièmement, trouvez de la joie chaque jour. L'une des sources de joie est le service, car lorsqu'on est occupé à aider les autres, on a moins l'occasion de se torturer à cause de ses propres défauts. Le Sauveur a enseigné avec justesse, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Vous aurez plus de joie dans la vie si vous faites disparaître le pessimisme commun aux adultes et si vous le remplacez par l'optimisme des enfants. L'optimisme est une vertu qui nous permet de voir la main aimante de Dieu dans les petites choses de notre vie. Un cantique bien connu nous donne le conseil suivant. Compte les bienfaits de chaque jour et vois dans chacun de Dieu l'amour. Je témoigne de notre Père céleste qui veille sur ses enfants avec un grand et merveilleux amour. Je rends témoignage de Jésus-Christ qui est puissant à nous sauver de nos insuffisances, de nos imperfections et de nos péchés. Je témoigne du Saint-Esprit qui accompagne l'âme imparfaite mais pénitente. À vous, saints fidèles et dignes, qui luttez contre les pièges que le diable utilise en ces derniers jours, je dis que Dieu vous accorde que vos fardeaux soient légers par la joie de son Fils. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
My beloved brothers and sisters,
mes frères et sœurs bien-aimés, merci de votre foi, de votre dévouement et de votre amour. Nous avons tous l'énorme responsabilité d'être ce que le Seigneur veut que nous soyons et de faire ce qu'il veut que nous fassions. Nous faisons partie d'un grand mouvement. Le rassemblement d'Israël dispersé. Aujourd'hui, je vais parler de ce principe en raison de son importance particulière dans le plan éternel de Dieu. Dans les temps anciens, le Seigneur a béni notre père Abraham en lui faisant la promesse de faire de sa postérité un peuple élu. On trouve des références à cette alliance partout dans les Écritures. Abraham reçut entre autres la promesse que le Fils de Dieu viendrait de sa lignée, que certaines terres seraient données en héritage et que les nations et les familles de la terre seraient bénies en sa postérité. Bien que certains aspects de cette alliance se soient déjà accomplis, le Livre de Mormon enseigne que cette alliance abrahamique ne s'accomplira pleinement que dans ces derniers jours. Il souligne aussi que nous faisons partie du peuple de l'Alliance du Seigneur. Nous avons le privilège de participer personnellement à l'accomplissement de ces promesses. Quelle époque magnifique dans laquelle nous vivons. Étant de la descendance d'Abraham, les tribus d'Israël bénéficiaient, dans les temps anciens, de l'autorité de la prêtrise et des bénédictions de l'Évangile. Mais elles se sont finalement rebellées. Elles ont tué les prophètes et le Seigneur les a châtiés. 10 tribus ont été emmenées en captivité en Assyrie. À partir de là, on n'en trouve plus trace dans l'histoire. Évidemment, les 10 tribus ne sont pas perdues pour le Seigneur. Les 2 tribus restantes ont subsisté pendant un peu de temps, puis à cause de leur rébellion, ont été emmenées en captivité à Babylone. Lorsqu'elles sont revenues, elles ont été favorisées du Seigneur. Mais une fois de plus, elles ne l'ont pas honoré. Elles l'ont rejeté et raillé. Notre Père aimant, mais attristé, a juré, « Je vous disperserai parmi les nations. » Et c'est ce qu'il a fait dans toutes les nations. La promesse que Dieu avait faite de rassembler Israël dispersé était tout aussi affirmée. Par exemple, Ésaïe a prédit que dans les derniers jours, le Seigneur enverrait des messagers rapides au peuple qui seraient ainsi dispersés et dépouillés. Cette promesse du rassemblement, omniprésente dans les Écritures, s'accomplira aussi sûrement que se sont accomplies les prophéties de la dispersion d'Israël. Avant sa crucifixion, le Seigneur Jésus-Christ a établi son Église. Elle comprenait des apôtres, des prophètes, des 70, des instructeurs, etc. Le Maître a envoyé ses disciples prêcher son Évangile dans le monde. Après un certain temps, l'Église établie par le Seigneur est tombée dans le déclin spirituel. On a modifié les enseignements du Seigneur. On a changé ses ordonnances. La grande apostasie s'est produite, comme l'avait prédit Paul, qui savait que le Seigneur ne reviendrait pas avant que l'apostasie soit arrivée. Cette grande apostasie a suivi le même schéma qui a mis un terme à chaque dispensation précédente. La toute première a eu lieu à l'époque d'Adam. Elle a été suivie par les dispensations d'Enoch, de Noé, d'Abraham, de Moïse et d'autres. Dieu avait chargé chaque prophète d'enseigner la nature divine et la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. À chaque époque, ces enseignements avaient pour but d'aider le peuple. Mais sa désobéissance a conduit à l'apostasie. Toutes les dispensations précédentes ont donc été limitées dans le temps et dans l'espace. Dans le temps parce que chacune s'est terminée par une apostasie. Dans l'espace parce que sur une portion relativement petite de la Terre. Il fallait donc qu'il y ait un rétablissement intégral. Dieu le Père et Jésus-Christ ont appelé Joseph Smith à être le prophète de cette dispensation. Tous les pouvoirs divins des dispensations précédentes devaient être rétablis par son intermédiaire. Cette dispensation de la plénitude des temps ne serait pas limitée dans le temps ni dans l'espace. Elle ne se terminerait pas par une apostasie et elle remplirait le monde. Comme l'ont prophétisé Pierre et Paul, toute chose devait être établie dans cette dispensation. Par conséquent, le rassemblement longtemps attendu d'Israël dispersé doit se produire dans le cadre de ce rétablissement. C'est un prélude nécessaire à la seconde venue du Seigneur. Cette doctrine du rassemblement constitue l'un des enseignements importants de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Le Seigneur a déclaré, « Je vous donne un signe, je rassemblerai mon peuple de sa longue dispersion. Ô maison d'Israël, et établirai de nouveau ma Sion parmi eux. » La parution du Livre de Mormon est un signe au monde entier que le Seigneur a commencé à rassembler Israël et à accomplir les alliances qu'il a faites avec Abraham, Isaac et Jacob. Nous ne faisons pas que d'enseigner cette doctrine. Nous y participons également. Nous œuvrons notamment au rassemblement des élus du Seigneur des deux côtés du voile. Le Livre de Mormon occupe une place essentielle dans cette œuvre. Il annonce la doctrine du rassemblement. Il amène les gens à connaître Jésus-Christ, à croire en son Évangile et à se joindre à son Église. En fait, s'il n'y avait pas de Livre de Mormon, le rassemblement promis d'Israël ne pourrait pas se produire. Nous accordons de l'importance au nom révéré d'Abraham. Son nom est mentionné dans plus de versets des Écritures du rétablissement que dans tous les versets de la Bible. Abraham est lié à tous les membres de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. À notre époque, le Seigneur a réaffirmé l'alliance abrahamique par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith. Au Temple, nous recevons nos bénédictions suprêmes en tant que postérité d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cette dispensation de la plénitude des temps a été prévue par Dieu comme le temps du rassemblement à la fois dans les cieux et sur la terre. Pierre savait qu'après une période d'apostasie viendrait un rétablissement. Lui, qui avait été avec le Seigneur sur la montagne de la Transfiguration, a déclaré « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » Dans les temps modernes, le Seigneur a envoyé les apôtres Pierre, Jacques et Jean avec les clés de son royaume et une dispensation de l'Évangile pour les derniers temps et pour la plénitude des temps, au cours de laquelle il rassemblerait toutes choses en une, tant celles qui sont dans le ciel que celles qui sont sur la terre. En 1830, Joseph Smith, le prophète, a été instruit par un messager céleste nommé Élias, qui détenait les clés pour réaliser le rétablissement de toutes choses. 6 ans plus tard, le temple de Kirtland a été consacré. Une fois que le Seigneur eut accepté ces saintes maisons, des messagers célestes vinrent avec des clés de la prêtrise. Moïse apparut et remit les clés pour rassembler Israël des 4 coins de la terre et pour amener les 10 tribus du pays du Nord. Après cela, Élias apparut et remit la dispensation de l'Évangile d'Abraham, disant qu'en nous et en notre postérité, toutes les générations après nous seraient bénies. Élie le prophète vint alors et proclama, « Voici, le temps est pleinement arrivé, ce temps dont il a été parlé par la bouche de Malachie, lorsqu'il a témoigné qu'il, Élie, serait envoyé avant la venue du jour du Seigneur, jour grand et redoutable, pour tourner le cœur des pères vers les enfants et les enfants vers les pères, de peur que la terre entière ne soit frappée de malédiction. » Ces événements eurent lieu le 3 avril 1836, en accomplissement de la prophétie de Malachie. Les clés sacrées de cette dispensation étaient rétablies. Heureusement, l'invitation à venir au Christ peut également être lancée à ceux qui sont morts sans connaître l'Évangile. Une partie de leur préparation nécessite des efforts d'autres personnes sur terre. Nous remplissons des feuilles d'ascendance et des feuilles de groupement de famille, et nous faisons des ordonnances par procuration au temple pour rassembler des personnes auprès du Seigneur et dans leur famille. Ici-bas, l'œuvre missionnaire est cruciale pour le rassemblement d'Israël. L'Évangile devait d'abord être apporté aux brebis perdues de la maison d'Israël. Par conséquent, les serviteurs du Seigneur sont allés proclamer leur établissement. Dans de nombreux pays, nos missionnaires recherchent les gens qui appartiennent à Israël dispersé. Ils les chassent des fentes des rochers. Ils les pêchent comme dans les temps anciens. La décision de venir au Christ n'est pas une question de lieu physique. C'est une question d'engagement personnel. Les gens peuvent être amenés à connaître le Seigneur sans quitter leur pays natal. Il est vrai qu'au début de l'Église, la conversion impliquait souvent aussi l'émigration. Mais maintenant, le rassemblement a lieu dans chaque pays. Le Seigneur a décrété que l'établissement de Sion se faisait dans tous les endroits où il a permis aux saints de naître et où il leur a donné leur nationalité. Les Écritures prédisent que les gens seront rassemblés chez eux dans les pays de leur héritage et seront établis dans toutes leurs terres de promission. Chaque pays est le lieu de rassemblement de son propre peuple. Le lieu de rassemblement des saints brésiliens est le Brésil. Le lieu de rassemblement des saints nigérians est le Nigeria. Le lieu de rassemblement des saints coréens est la Corée. Et ainsi de suite. Sion, c'est ceux qui ont le cœur pur. Sion est partout où sont les saints fidèles. Les publications, les communications et les assemblées sont maintenant telles que presque tous les membres bénéficient de la doctrine, des clés, des ordonnances et des bénédictions de l'Évangile, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. La sécurité spirituelle dépendra toujours de la façon dont on vit, et non de l'endroit où l'on vit. Les saints de tous les pays peuvent prétendre aux mêmes bénédictions du Seigneur. Cette œuvre du Dieu Tout-Puissant est vraie. Il vit. Jésus est le Christ. C'est son Église qui est rétablie pour accomplir sa destinée divine, notamment le rassemblement promis d'Israël. Président Gordon B. Hinckley est le prophète de Dieu aujourd'hui. J'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Nous remercions sincèrement le chœur du tabernacle de la belle musique qu'il a interprétée ce matin. Je vais maintenant avoir le plaisir de vous adresser la parole. Après mon discours, le chœur chantera « Vous fidèles ». Ensuite, Douglas Shumway, des 70, fera la prière de clôture et la dernière session de cette conférence commencera à 14h cet après-midi. Mes frères et sœurs, je traiterai d'abord d'une affaire personnelle. Le président de l'Église appartient à l'Église entière. Sa vie ne lui appartient pas. Sa mission est de servir. Comme vous le savez tous, je suis quelque peu âgé. Je suis dans ma 97e année. J'ai appris de nombreuses sources qu'on se livre à beaucoup de conjectures sur ma santé. J'aimerais mettre les choses au clair. Si j'attends encore quelques mois, j'arriverai à un âge plus avancé en tant que président, que n'importe quel autre président de l'Église. Je suis reconnaissant de cela. En janvier dernier, j'ai eu une opération importante. Ça a été particulièrement important pour quelqu'un qui n'avait jamais été hospitalisé. Après cela, la question était de savoir si je devais suivre d'autres traitements. J'ai choisi de le faire. Mes médecins ont dit que les résultats relevaient du miracle. Je sais que ces bons résultats sont dus à vos nombreuses prières pour moi. Je vous suis profondément reconnaissant. Le Seigneur m'a permis de vivre, je ne sais pas pour combien de temps encore, mais quelle que soit la durée, je continuerai de faire de mon mieux pour accomplir la tâche présente. Il n'est pas facile de présider une église si grande et si complexe. Il n'y a rien qui échappe à la première présidence. Aucune grande décision n'est prise. Aucune dépense de fonds n'est faite sans son accord. La responsabilité et le stress sont grands. Mais nous continuerons tant que le Seigneur le voudra. Nous sommes entre ses mains. Sa volonté est notre volonté. Lorsque viendra l'heure de la succession, la transition se fera en douceur et sera conforme à sa volonté, la volonté de celui dont c'est l'Église. Ainsi, nous allons de l'avant avec foi. Et c'est justement le thème dont j'aimerais discuter ce matin. Depuis le début, l'Église va de l'avant avec foi. La foi était la force de Joseph Smith, le prophète. Je suis reconnaissant de la foi qui l'a conduit à prier dans le bosquet. Je suis reconnaissant de la foi de traduire et de publier le livre de Mormon. Je suis reconnaissant qu'il se soit adressé au Seigneur en prière et qu'en réponse, les prêtrises d'Aaron et de Melchisédek lui aient été confiées. Je suis reconnaissant qu'avec foi, il ait organisé l'Église et l'ait lancée. Je le remercie du don de sa vie qu'il a fait pour témoigner de la véracité de cette œuvre. La foi était aussi la force motrice de Brigham Young. Je pense souvent à la foi extraordinaire dont il a fait preuve pour amener un très grand nombre de personnes à s'installer dans la vallée du lac Salé. Il ne connaissait pas grand-chose de la région. Il ne l'avait jamais vue, à part en vision. Il ne savait presque rien du sol, de l'eau ou du climat. Et pourtant, quand il l'a vu, il a dit sans hésitation, « C'est là, en avant. » Ainsi en a-t-il été de tous les présidents de l'Église, face à une opposition farouche, Ils sont allés de l'avant avec foi. Que ce soit quand les criquets détruisaient leur récolte, que ce soit quand il y avait la sécheresse ou des gelées tardives, que ce soit quand le gouvernement fédéral les persécutait, ou encore récemment, quand il y a eu un besoin urgent de déployer l'aide humanitaire aux victimes du tsunami ou de tremblements de terre ou d'inondations dans divers endroits, cela a été la même chose. Les étagères de l'entraide ont été vidées. Des millions ont été envoyés aux personnes dans le besoin, sans considération de religion. Tout cela dans la foi. Cette année, on fête un événement important de l'histoire de l'Église. Comme vous le savez tous, c'est le 150e de l'arrivée des convois de charrettes à bras Willie et Martin et des convois de chariots bâchés Hunt et Hodgett qui les accompagnaient. Beaucoup a été écrit à ce sujet. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Chacun d'entre vous connaît bien l'histoire. Il me suffit de dire que les gens qui ont entrepris le long voyage depuis les îles britanniques jusqu'à la vallée du lac Salé l'ont commencé avec foi. Ils ne savaient rien ou presque rien de ce dans quoi ils s'embarquaient. Mais ils sont allés de l'avant. Ils ont entamé leur voyage avec de grandes espérances. Cette expérience les a abandonnés peu à peu à mesure qu'ils avançaient vers l'ouest. Quand ils ont entrepris le pénible voyage longeant la rivière Platte depuis la vallée de la Sweetwater, la main froide de la mort a sonné le redoutable glas. Leur nourriture était rationnée, leurs bœufs mouraient, leurs chariots se brisaient, leur couchage et leurs habits n'étaient pas adaptés à la situation. Les orages faisaient rage, ils cherchaient un abri, mais n'en trouvaient pas. Les orages s'abattaient autour d'eux, ils mouraient littéralement de faim. Nombre d'entre eux sont morts et ont été enterrés dans le sol gelé. Par bonheur, Franklin D. Richards, qui venait d'Angleterre, les a dépassés. Il voyageait à cheval, avec un convoi léger. Aussi pouvait-il se déplacer plus rapidement. Il est arrivé dans la vallée. C'est à cette saison de l'année. La conférence générale était en cours. Quand Brigham Young a appris la nouvelle, et s'est immédiatement levé devant l'Assemblée et a dit « J'indique à présent le sujet que devront traiter les anciens qui parleront aujourd'hui et pendant la conférence. Le voici. Aujourd'hui, 5 octobre 1856, beaucoup de nos frères et sœurs sont dans les plaines avec des charrettes à bras. Et probablement beaucoup d'entre eux sont à 700 milles d'ici. Il faut les amener ici. Nous devons leur envoyer de l'aide. Le sujet sera les amener ici. Je veux que les frères qui prennent la parole comprennent que le sujet est les gens dans les plaines et le sujet de préoccupation de cette communauté et qu'on les ramène avant que l'hiver ne s'installe. Je fais appel aux évêques aujourd'hui même. Je n'attendrai pas demain, ni après-demain, pour avoir 60 bons attelages de mules et 12 à 15 chariots. Je ne veux pas envoyer de bœufs. Je veux de bons chevaux et des mules. Ils sont sur ce territoire et nous devons nous les procurer. Il faudra également 12 tonnes de farine et 40 bons attelages, 60 ou 65 paires de mules ou de chevaux avec des harnais. Je vous dis à tous que votre foi, votre religion et votre profession de foi ne sauveront aucune de vos âmes dans le royaume céleste de notre Dieu si vous n'appliquez pas les principes justes que je vous enseigne maintenant. Allez chercher ces gens qui sont maintenant dans les plaines et faites avec exactitude ces choses que l'on appelle temporelles ou tâches temporelles. Autrement, votre foi aura été vaine. La prédication que vous avez entendue sera vaine et vous plongerez en enfer si vous ne faites pas ce que l'on vous dit de faire. Immédiatement, on proposa des chevaux, des mules et des chariots solides. On apporta de la farine en abondance. On rassembla rapidement des habits chauds et de la literie. En l'espace d'un ou deux jours, les chariots remplis se dirigèrent vers l'est sous la neige qui tombait drue. Lorsque les sauveurs rencontrèrent les saints accablés, ils furent accueillis comme des anges venant des cieux. Les gens pleuraient de gratitude. On mit les gens des charrettes à bras dans les chariots afin de pouvoir se rendre plus rapidement vers la colonie de Salt Lake. Quelques 200 personnes trouvèrent la mort, mais un millier furent sauvés. L'arrière-grand-mère de ma femme se trouvait parmi les personnes qui étaient dans une situation désespérée dans les plaines. Elle faisait partie de la compagnie Hunt. Aujourd'hui, la tombe de ma femme au cimetière de Salt Lake City fait face à celle de son arrière-grand-mère, Mary Penfold Goble, qui est morte le 11 décembre 1856 dans les bras de sa fille en pénétrant dans cette vallée. Elle a été enterrée le lendemain, le 12 décembre. Elle avait perdu 3 de ses enfants au cours de ce long voyage. Les pieds d'une de ses filles survivantes étaient gravement gelés. Quelle histoire! Elle est faite de souffrance, de faim, de froid et de mort. Elle regorge de récits, de rivières gelées à traverser, de tempêtes de neige violentes, d'escalades longues et lentes comme celle de la Rocky Ridge. Une fois que cette année anniversaire sera passée, on en aura peut-être quasiment tout oublié. Mais j'espère qu'on la racontera encore et encore afin de rappeler aux générations futures la souffrance et la foi des gens qui nous ont précédés. Leur foi est notre patrimoine. Leur foi nous rappelle le prix qu'ils ont payé pour le confort dont nous jouissons. Toutefois, la foi ne se manifeste pas uniquement par des événements héroïques tels que l'arrivée des pionniers des charrettes à bras. Elle se manifeste également par de petits événements, mais qui ont néanmoins leur importance. Je vais vous parler de l'un d'eux. Lorsque le temple de Manti en Utah était en construction, il y a quelques 120 ans, George Francis Paxman était charpentier finisseur. Avec Martha, sa jeune femme, ils avaient un enfant et en attendaient un autre. Alors qu'il accrochait une des lourdes portes de l'aile est du temple, George a eu une hernie étranglée. Il souffrait terriblement. Martha l'a mis dans un chariot, l'a amené à la ville de Nephi, où elle l'a mis dans un train en direction de Provo. Il y est mort. Elle s'est retrouvée veuve pendant 62 ans. Elle s'est soutenue en faisant des travaux d'aiguille. Je me permets de m'écarter du récit pour dire que lorsque je me suis fiancé, j'ai donné à celle qui allait être ma femme une bague de diamants. Lorsque nous sommes mariés, je lui ai donné une alliance. Elle les a portées pendant des années. Puis un jour, je me suis rendu compte qu'elle les avait enlevées et qu'elle portait cette alliance en or. Elle avait appartenu à Martha Elizabeth Evans Paxman, sa grand-mère. L'alliance avait été donnée par son mari George, qui est mort plus tard des suites de la blessure dont je parlais avant. Un jour de printemps, Martha faisait le ménage. Elle a sorti toutes les affaires afin de nettoyer la maison de fond en comble. En secouant la poussière du matelas, elle s'est aperçue qu'elle n'avait plus de bague au doigt. Elle a bien regardé partout. C'était le seul souvenir physique de son mari bien-aimé. Elle a balayé de ses doigts la poussière, mais n'a pas trouvé l'alliance. Elle a commencé à pleurer. Elle s'est agenouillée et a prié avec une grande sincérité le Seigneur de l'aider à retrouver l'alliance. Quand elle a ouvert les yeux, elle a regardé vers le bas et l'a vue. Je l'ai dans ma main en ce moment. Elle est trop petite pour que tout le monde la voie. Elle est en or 18 carats. Elle est vieille, rayée et tordue. Mais elle symbolise la foi d'une veuve qui a supplié le Seigneur dans sa détresse. Une telle foi est la base de l'action. Elle est la source de l'espoir et de la confiance. C'est ce genre de foi simple dont nous avons tous tant besoin. C'est d'une foi plus grande que nous avons besoin pour faire progresser cette grande œuvre. Sans cette dernière, l'œuvre stagnerait. Avec la foi, personne ne pourra l'empêcher de progresser. Le Sauveur a dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénevé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Alma a déclaré à son fils Élaban, « Prêche-lui le repentir et la foi au Seigneur Jésus-Christ. Enseigne-lui à s'humilier et à être doux et humble de cœur. Enseigne-lui à résister à toutes les tentations du diable par sa foi au Seigneur Jésus-Christ. » Que le Seigneur vous bénisse en vous donnant de la foi dans cette grande œuvre dont nous faisons partie. Que la foi soit telle une bougie, nous guidant dans la nuit par sa lumière. Qu'elle nous accompagne tel un nuage le jour. Je prie humblement pour cela, au nom sacré de celui qui a la force de notre foi, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Père Céleste, nous te exprimons notre reconnaissance pour l'Esprit Saint que nous avons senti ce matin, pour les paroles, les conseils, la belle musique. Veuille nous bénir, nous aider à améliorer notre vie, à vivre les préceptes qui t'ont été enseignés par ton Fils, les préceptes de ton Évangile. Nous sommes reconnaissants du rétablissement de cet Évangile, reconnaissant au prophète Joseph Smith, aux saints qui ont tant donné il y a si longtemps, fait tant de sacrifices pour cette grande cause. Puissions-nous avoir la même foi que pour faire avancer cette œuvre, Seigneur. Bénis notre président, le prophète Gordon Binkley. Donne-lui la force dont il a besoin. Donne-lui de la joie dans ton service. Donne-lui la santé. Bénis les 12 dans leur voyage à travers le monde. Protège-les. Protège nos missionnaires. Donne-leur la réussite dans la prédication de ton évangile. Puissions-nous toujours nous rappeler le sacrifice expiatoire de ton Fils et ton désir de nous... veuille désirer nous bénir dans nos efforts pour te servir. Accompagne-nous maintenant. C'est là notre prière au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 176th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the General Authorities and General Offices.
Les orateurs étaient choisis par les autorités générales, les officiers généraux de l'Église, les saints des derniers jours. La musique était interprétée par le chœur du tabernacle, les officiers généraux de l'Église. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Communications. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.